Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Si je vous dis star du digital avec sa société qui poste des programmes sur YouTube, homme de radio qui a inventé le concept de la radio filmée, showman en tournée dans toute la France avec son spectacle 100% libre et ponctuellement DJ qui a mixé à Bercy comme à Miami, vous avez trouvé ? Ah, je vais rajouter qu'il a triomphé sur TF1 avec le programme qui est l'ancêtre de Touche pas à mon poste, la méthode Coé. Eh ben oui, vous allez en fait découvrir les 1000 vies de Sébastien Coé, 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, je précise. Sébastien Coé qui fait paraître chez Robert Laffont. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne.
Europe 1.
C'est assez juste. Bonjour, Coé.
Bonjour, comment ça va?
Mais ça va très très bien, je dois dire Sébastien ou Sébastien Coé, je
dis Coé tout court. Vous qui voyez. C'est vrai que quand les gens me connaissent un peu, ils disent Sébastien. Après, ils ont un peu de mal à m'appeler par le nom de famille, mais c'est comme vous voulez. C'est ce qui vient en premier.
Alors, je commence par Sébastien Coé, et puis à la fin, comme on se connaîtra tout à fait, je dirais juste Sébastien.
Ouais, ce sera peut-être Seb. Ce sera peut-être
bah, carrément.
Mais oui.
Bon. Alors, Sébastien Coé, si votre mère vivait encore, bah, vous jubileriez de lui avoir fait vivre tous vos triomphes à la radio et à la télé. Le chagrin, c'est que si votre mère vivait encore, vous n'auriez jamais fait carrière à la radio et à la télé, c'est ça ?
Oui, c'est la vie qui peut être cruelle et très étrange en même temps. C'est-à-dire que ma mère voulait que je sois ingénieur des eaux et forêts. Vous savez que vous habitez la province, petite ville de province, à l'époque, faut remonter évidemment des années en arrière, ingénieur, c'est une espèce de c'est encore un beau métier, mais alors c'était le on était arrivé, quoi. Il y avait président de la République et ingénieur.
Puis alors surtout ingénieur des eaux et forêts.
Je sais pas pourquoi elle voulait me coller dans les eaux et forêts. Moi, après, j'avais une petite envie d'être militaire de carrière. Je lui disais ça, elle était ravie. Je lui disais que je voulais faire pilote de chasse, elle était ravie. Mais c'est vrai que si elle était encore parmi nous, évidemment que je n'aurais jamais fait ce métier d'animateur radio et plus encore.
Alors vous affirmez, l'enfance fait 90% de l'adulte qu'on devient, mais vous étiez un enfant taciturne, hein, secret, solitaire, ultra réservé, qui est devenu un personnage public en total lâcher prise, ultra décomplexé, le roi de l'entertainment no limit. Fallait bien ça pour survivre en fait à une enfance qui s'est arrêtée l'année de vos 9 ans.
Oui, mais ce garçon taciturne que j'étais, je le suis toujours un petit peu. C'est-à-dire que je suis pas le bout en train qui va faire des blagues à table avec même au milieu de plein de copains. C'est très étrange. J'suis toujours, vous savez, quand vous êtes fils unique, que votre maman décède quand vous avez 10 ans, après votre papa, etc., que vous vous retrouvez tout seul, que vous gérez plein de choses en étant tout seul. C'est vrai, vous l'avez dit d'ailleurs. La jeunesse s'arrête net. D'un seul coup, mon adolescence un peu plus tard, c'est alors pour le coup arrêté et j'ai basculé d'un coup en étant adulte. Mais c'est vrai qu'en plus, si au fond de vous, bah, vous êtes seul face à la situation. Plus fils unique, bah ça fait un garçon un peu renfermé sur lui-même en même temps.
Certes, mais il y a aussi le tempérament qui entre en jeu, parce qu'il paraît que vous n'aviez que 7 ans quand vous êtes juré de en fait, ne jamais faire votre vie dans le décor de cette petite ville du Nord,
ouais.
Qui vivait autour de l'usine où on transformait les betteraves sucrières. Pourquoi si tôt, en fait, c'est comme étrange à 7 ans, cette envie d'ailleurs, puisque vous ne saviez pas qu'autre chose existait?
Je sais pas, j'étais en même temps très très heureux. J'ai passé une adolescence heureuse. On a toujours tendance à croire, quand on dit qu'on voulait s'en aller, que les gens disent « Ah bah, il a pas aimé son enfance, il a pas aimé le décor de la Picardie, il a pas... » Pas
vous
tout.
Si.
J'ai passé avec mes amis, j'adorais ce décor. De toute façon, j'en ai vu aucun autre. Donc, je trouvais ça très bien.
Alors
et je ne m'ennuyais pas. Parce que je sais pas, je crois que les premiers spectacles, je dis dans le livre, que j'avais vu, ma marraine m'emmenait à Royan une fois de temps en temps l'été voir des spectacles, des gens qui faisaient des trucs sur scène. La radio, mes parents écoutaient la radio, comme des millions de gens, là, qui nous écoutent. Moi, j'ai commencé à découvrir quand j'avais 10, 12 ans, Coluche sur Europe 1. Et je me disais, mais c'est un métier, ça? On peut vraiment donc, arriver, dire des bêtises ou pour être poli, derrière un micro et des millions de gens viennent vous écouter. Et donc, assez naturellement, je me dis, voilà, c'est ça que je rêverais de faire. Et il n'était même pas question pour moi de faire comme mes oncles, mes cousins, mon grand-père, qui était de travailler dans la sucrerie où tout le monde était.
Alors, effectivement, vous l'avez fait, votre place au soleil dans ce métier, vous l'êtes fait en fait seul, en n'appartenant à aucun lobby, aucune bande, aucun réseau,
ouais.
Je précise, parce que c'est quand même assez rare, avec des audiences phénoménales en télé comme en radio. Pas mal d'allers-retours aussi entre les stations. Et puis aujourd'hui, eh bien, votre propre chaîne, vous l'avez sur YouTube, 10 millions d'abonnés. Mais vous écrivez que la télé rend fou. La télé rend fou, Sébastien Coé, ou bien c'est parce qu'on est fou qu'on fait carrière à la télé?
Non, je crois que la télé peut rendre fou beaucoup de gens dans un sens comme dans un autre, quand on y est puis quand on n'y est plus. J'ai vu beaucoup de gens de changer en y étant et j'ai vu beaucoup de gens être profondément malheureux en n'y étant plus.
Et vous avez changé ou pas?
En y étant ?
Ouais.
Non, parce que alors moi, ce que je dis dans le livre, mon petit coup de grosse tête, vous savez la grosse tête quand on fait notre métier, qu'on soit chanteur, animateur radio, ça, c'est normal de l'avoir. La grosse tête, c'est quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on déconnecte un petit peu et on se dit ça va, je suis une star.
Alors, on jubile.
On est très con parce que souvent ça va avec ça, la grosse tête. On est débile, notamment vis-à-vis de son entourage.
Non, moi, j'ai dit on jubile.
Oui, mais jubiler encore ça va. Mais moi, je l'ai eu vers 20-21 ans et ça n'a pas duré très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit bon là, tu es stupide, arrête de t'enflammer, t'es qu'au début de ta carrière. Mais voilà, il faut avoir la grosse tête. Et donc, quand j'ai vécu tout ça et que la télévision est arrivée, j'étais pas destiné à faire de la télé, puisque finalement la méthode au début marchait pas. À chaque fois que j'allais voir un patron de chaîne de télé, vous savez, on avait commencé à enregistrer la radio, on avait commencé à filmer, moi je faisais des bout à bout et j'étais allé voir des patrons de chaîne je les voyais regarder leur écran.
Ils n'y croyaient pas du tout.
Mais il y avait même pas un sourire, il y avait rien du tout. Je livrais le meilleur de ce qu'on pouvait faire en radio. Il y a des invités, je me souviens, il y avait David Douillet, on avait fait du judo, etc. à la radio, dans les anciens locaux d'Europe 1 d'ailleurs, ouais, puisque la radio où j'étais était rue François 1er. Et voilà, on avait sorti les tatamis, je me disais, ça doit être dingue pour un patron de télé de voir ces images-là, qu'un type fasse ça à la radio. Et je les voyais regarder ça avec un détachement incroyable. Et donc, je me suis dit, bon, je crois que ce métier ne sera jamais pour moi et je resterai caché derrière un micro, ce qui était bien. Hein.
Bon, vous faites de l'entertainment. Or, vous dites, l'humour, ça vieillit vite et mal. Si vous démarriez en 2019, vous seriez exactement le même aujourd'hui? Parce que on a le sentiment que vous avez quand même inventé le No Limit.
Ouais.
En radio et en télé.
Oui, parce que il y avait une espèce de liberté radio comme télé qui était une espèce de, bizarrement, de bienveillance de la part des auditeurs et des téléspectateurs. C'est-à-dire, quand les gens regardaient un divertissement, ils l'analysaient pas plus qu'un divertissement. Vous regardez un match de foot, vous regardez un match de foot. Nous, on avait ce délire-là, c'est-à-dire que ça fait un petit peu vieux quand je dis ça, mais c'est pas s'il y a si longtemps que ça. Non, mais le pire, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, quand vous faisiez une émission de radio où, je sais pas, un invité, on faisait venir Jean Reno et qu'il y avait une stripteaseuse à côté. Quand Jean Reno avait des mauvaises réponses, la stripteaseuse enlevait un vêtement et que Jean Reno faisait semblant d'avoir des mauvaises réponses.
Bon, ça marche à toutes les décennies.
Oui, sauf que maintenant vous le faites. Et aujourd'hui, on va dire, mais comment vous traitez la femme? Mais comment? Et vous seriez obligé de vous expliquer, de vous justifier de tout. C'est ça qui est un peu dommage. Mais il ne faut pas s'empêcher de faire rire les gens, surtout pas.
Alors, juste cette question avant de faire une pause. Aujourd'hui, Sébastien Coé, le digital représente une grosse partie de vos activités. Vous avez lancé votre société Be Aware dans le digital et puis vous comptabilisez plus d'un milliard cent millions de vues sur Internet. Vous en êtes à 1,5 milliard. D'accord. Alors, j'ai envie de vous demander si vous n'êtes pas le Elon Musk de la production d'entertainment dans le numérique.
Mais si vous voulez dire, pour un type qui a passé la quarantaine, voilà, qui n'est pas forcément
YouTubeur. Et qui débute dans ce domaine.
Ouais, c'est un peu hors norme. Mais ça fait partie des choses un peu dingues quand j'ai voulu les faire au début. Mais ce qui est un peu l'histoire de ma vie, le deuxième titre qu'on voulait mettre au livre, c'était Tu vas pas faire ça. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose dans ma vie, on me disait Tu vas pas faire ça. Chaque fois que je voulais dans une radio, on me dit Mais tu vas pas faire ça.
Donc vous le faisiez.
Et je le faisais. Évidemment que je le faisais. Et quand j'ai voulu faire Internet et évidemment de la création sur YouTube il y a des années, on m'a dit « Mais tu vas pas faire ça, t'as passé l'âge ». Quelques centaines de millions de vues plus tard, tout le monde vient voir en disant « Mais quelle bonne idée !» C'était la même chose avec les caméras dans les studios de radio. Quand au début on a commencé à filmer, tout le monde me disait « Mais tu sais que ça n'a aucun intérêt ce que tu fais. Ça n'intéresse personne de filmer quelqu'un derrière un micro, la radio c'est moche. »
Or aujourd'hui, tout le monde pose des caméras dans les studios de radio.
On pose même bientôt les caméras et on construit les micros et après on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va filmer ?» C'est un peu à l'envers aujourd'hui.
Europe 1. C'est dans la vie de Sébastien Coé qu'on se balade aujourd'hui. On fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Un tête-à-tête en compagnie de Sébastien Coé cet après-midi. C'est l'invité d'Isabelle Morizet.
T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne, vient de paraître chez Robert Laffont. Et effectivement, Coé ne ressemble à personne et il nous embarque cet après-midi dans les coulisses de sa vie. Sébastien Coé, je vais dire Coé, puis après ça sera Seb. Ok. Vous avez grandi donc, allez c'est vous qui le dites, dans un décor à la Germinale, celui d'une bourgade du Nord où le sucre des betteraves sucrières remplaçait le charbon. Une bourgade dont la rue principale qui menait à l'usine était maculée de boue 6 mois par an en raison des passages incessants des camions venant décharger les betteraves à la sucrerie. Une odeur très forte donc régnait sur cette ville. Les gens qui n'y sont pas habitués détestent ça. Or pour vous, Ce parfum, comme ça, c'est vraiment une Madeleine de Proust.
C'est le parfum de mon père. Mon père sentait cette odeur dans ses vêtements, c'était incrusté. C'est une odeur où je le raconte dans le livre, il n'y a pas si tellement longtemps, j'étais en balade avec mon fils dans le Nord. Il reste assez peu de sucreries, mais j'étais dans le Nord et cette odeur, elle m'est revenue d'un coup. Et j'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert les fenêtres, mon fils m'a dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « sang, sang ». Il m'a dit « mais ça sent pas très bon ». Je dis « mais si, ça sent très bon, c'est le sucre ça mon grand ». Et j'ai lui expliqué que ça sentait ça et que mon père sentait ça, mais j'ai bien vu que ça le passionnait moins que moi, ça m'a rappelé des choses.
Quel métier exerçaient vos parents ?
Mon papa était contremaître dans une sucrerie et ma maman était secrétaire dans la même sucrerie. Ils travaillaient tous les deux ensemble à 500 mètres de la maison.
Ouais.
Ils prenaient la voiture pour y aller. Bon, la transition écologique, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais ils prenaient la voiture pour faire ça, ils revenaient. Et ouais, c'était leur métier. Ouais.
Alors, c'est pas dans une voiture, mais c'est dans un bus affrété par la sucrerie où travaillaient vos parents, que vous êtes allé donc à Paris vous fondre pour la première fois dans le public de l'École des fans, présenté par Jacques Martin, bien sûr.
Ah, oui.
La vedette, c'était Dalida, mais ce qui vous a fasciné, Sébastien Coé, c'était plutôt la mécanique de l'émission, hein, les cadreurs, les assistants, et puis bien sûr celui qui régnait en maître, comme ça, sur cette planète, Jacques Martin.
Ça a été même un plaisir de le voir pour plus tard, des années plus tard, quand je suis venu à Paris, de l'avoir rencontré, mais j'étais fasciné. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui était passé de ma télé à vraiment devant moi. Voilà, les panneaux applaudissaient. Je me disais, mais il y a des panneaux applaudissaient, mais on les voit pas à la télé. Je le voyais fumer sa cigarette, puis dès que c'était fini, il y avait un nuage de fumée quand il reprenait le plateau, mais il y avait quelqu'un qui était venu prendre le mégot. Ouais, j'étais fasciné par ça. Je commençais à me dire, ça, c'est un beau métier.
Ouais, mais vous avez su très tôt qu'en fait, vous vous placeriez un jour dans la douche de lumière pour parler aux gens ?
Oui, mais avec une timidité maladive, un physique qu'on n'assume pas beaucoup, une souplesse qui ne permet pas d'être danseur, on se dit qu'on y va par élimination. C'est-à-dire, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? J'adorais ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Danser, non, chanter, j'en étais pas capable. Je voulais faire ça, c'est pour ça que je suis allé assez vite vers l'animation et la radio, parce que finalement, c'est ce qui
nécessitait... Allez, vous allez nous parler du fameux physique de radio, c'est ça ?
Oui, mais j'étais complètement là-dedans, moi. C'est-à-dire que je me disais, mais... J'ai pas grand... Et surtout, est-ce que j'oserais aller sur scène ? Voilà, des années plus tard, je me suis retrouvé à faire des one-man, mais bien avant ça, je me disais jamais je serais capable de ça. La radio, là, vous voyez, quand on est caché derrière cette bonnette bleue, on se sent différent, on peut se donner un rôle, on a d'un seul coup, on a 25 ans, on est surfeur, on fait 1m90.
Mais alors, je reste sur le physique, justement. Lorsqu'on ouvre votre livre, au centre du livre, il y a quelques photos, et alors on tombe sur celle en noir et blanc du plus beau petit garçon du monde. Attention, c'est pas du premier degré.
Donc vous êtes en train de dire qu'il a mal, ce petit garçon.
Ah,
donc
bah écoutez,
on démarre beau.
Je ne sais pas à partir de quand, dans l'adolescence, ça a dérapé, mais vous étiez carrément, vous aviez un physique de pub.
Mais tous les mes enfants, il y a un âge où ça va à peu près. C'est après que ça se dégrade, parce que c'est après qu'on commence à manger des cochonneries, et voilà. Mais c'est vrai que oui, elle est belle cette photo, avec les pigeons,
ah,
avec les colombes plutôt.
Elle est sublime.
Ouais, c'est très beau. Star Wars.
Un ange.
Ouais, oui, elle est très mignonne. Ouais,
n'est-ce pas ? Bon, Sébastien Coé. Alors, voilà, enfance heureuse, enfant choyé, même si votre maman était impressionnante d'autorité. 1m75, hein, c'est
ouais,
pas rien.
Ouais, c'est cool,
voilà.
Ouais.
Mais justement, il y a eu un séisme dans votre vie, le pire en fait que puisse vivre un enfant unique. Vous avez perdu votre maman à l'âge de 9 ans, cancer du sein. Elle est morte par une très belle journée d'été, vous le précisez dans ce livre, après un long calvaire à la maison. En fait, les drames aiment se dérouler au soleil, hein. Ils sont encore plus cruels ainsi.
Oui, c'était assez étonnant, c'était assez dingue cette journée. Vous savez, des fois dans la vie, quand on écrit un bouquin, on essaie de se remémorer. Voilà, la question, beaucoup de gens m'ont dit, mais est-ce que tu arrives à te souvenir de tout ? Et très bizarrement, oui, évidemment, cette journée-là, bien sûr, je me souviens de tout, des gens que j'ai croisés, des mots qui m'ont été dits, de la façon avec laquelle ça a été dit pour annoncer à un enfant que sa maman est décédée, parce que on cache souvent la vérité aux enfants. Évidemment, on ne parle jamais de la gravité d'une maladie. Je savais que ma maman était malade, je le voyais, mais on croit toujours que ça va aller mieux, qu'on vous dit elle va s'en sortir, et ne t'inquiète pas mon grand, etc., etc. Donc à un moment donné, vous reprenez votre vie d'ado, vous allez avec les copains, vous allez jouer, et puis quand vous revenez de la piscine, comme ce jour-là, voilà, vous prenez un choc, et d'ailleurs on me l'a pas dit tout de suite, on me l'a dit un petit peu plus tard dans la soirée, mais parce que c'est la chose, je pense, la plus difficile et la plus horrible à dire à un enfant.
C'est la chose la plus difficile, effectivement, à dire et à entendre, et c'est pas la seule chose atroce, parce que le soir avant de vous coucher, votre père vous demande d'aller embrasser votre maman, morte, dont les joues sont glacées comme du marbre, et pendant 3 jours, à vous en fait les funérailles. Matin et soir, votre papa va insister pour que vous embrassiez ce visage que vous ne reconnaissez plus. Mais pourquoi ce rituel cruel qui a marqué votre vie ?
Je sais pas, je pense pas que c'était cruel. Je pense
il
pas
se qu'il... rendait pas compte non, en fait de ce qu'il vous imposait.
Ouais, non, je crois qu'il y avait pas grand monde qui se rendait compte de ça. Vous savez, les veillées de corps, les veillées de mort, il y a des gens qui trouvent ça abject et puis des gens qui trouvent ça normal. Voilà, vous avez, c'est des conceptions. Je crois qu'il faut pas essayer de comprendre. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont d'un côté ou de l'autre. Mon père était un peu comme ça. Et c'est vrai qu'à la fin, vous voilà, malheureusement, la toute vie a quitté la personne que vous aimez et ça n'est plus qu'un corps froid. Oui, ça n'a pas arrangé. Forcément, quand vous êtes enfant, ça vous remet un petit coup là pendant quelques jours, qui est pas agréable.
Et puis il y a le traditionnel pot de nez, n'est-ce pas, à la maison après les funérailles. Les gens boivent, certains rient.
Oui, ça.
Alors ça, c'est carrément atroce. Comme si le chagrin était évacué. Bon, vous avez 9 ans, vous êtes orphelin de mère, et vous avez juste envie de hurler. Voilà.
Oui, j'avais pas compris. Alors, j'ai pu le comprendre peut-être beaucoup plus tard, peut-être bizarrement quand on vieillit, parce qu'on se dit, tiens, la vie continue. Alors, c'est vrai qu'elle continue, mais je trouvais que là, quand même, la rupture était un peu brutale, parce que c'était... les gens se retrouvaient, il y avait une espèce... Ouais, les éclats de rire me choquaient beaucoup. Ça, par contre, j'avais pas compris. Mais...
Vous dites, la vie continue. Elle a continué comment, Sébastien Coé ?
Elle a continué avec un papa génial qui a bizarrement qui avait ce défaut d'être obsédé par le départ de sa femme et qui ne s'en est jamais remis, qui allait 2 fois par jour au cimetière et qui m'obligeait parfois à y aller parce que quand vous êtes ado, vous savez, une pierre tombale, vous allez vous recueillir dessus, voilà, vous avez envie d'y aller une fois de temps en temps, puis après c'est quelque chose qui est un peu lourd. Mais mon père avait besoin de ce rituel là, mais ça a été un papa génial, ça a été il essayait de faire la lessive comme il pouvait, il faisait à manger comme il pouvait, il avait 4 plats avec lesquels il tournait en boucle que je ne peux plus manger aujourd'hui, qui vont du ragoût de mouton au coq au vin.
Qu'on
je
se le dise.
Je ne peux plus voir ni c'est un ragoût de mouton ni un coq au vin.
Mais il est devenu à la fois votre père et votre mère.
Il est devenu génial et puis avec une espèce de discrétion. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Donc moi non plus. Donc imaginez un fils unique de son côté qui parle pas beaucoup, un père qui parle pas beaucoup. Ça faisait pas des grandes discussions, mais on se comprenait et on s'aimait très fort.
Et il est devenu le complice de vos passions. Oui, on va l'évoquer dans un instant.
Oui, c'est grâce à lui. Tout ça aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vraiment. Et ce livre, quelque part aussi, il y est beaucoup pour lui.
Europe. Ce livre qui vient de paraître chez Robert Laffont et qui a pour titre « T'habiller comme tout le monde, mais tu ressembles à personne ». On retrouve tout de suite Sébastien Coé.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est 15h20 et il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Se poursuit avec Isabelle Morizet et un passionné de radio, Coé.
Homme de radio, showman, patron de société, c'est simple. L'univers de Coé, c'est la planète tout entière. Et j'ai même envie de dire que c'est l'avenir. Je reçois un homme de radio qui est devenu une star sur YouTube. C'est que le début. Alors Sébastien Coé, bon, le destin vous envoie des signaux étranges quand il fait de vous un orphelin de mère à l'âge de 9 ans. Alors, pour masquer le drame de cette situation, vous allez peu à peu chercher, paraît-il, l'humour en toute chose. En fait, l'humour au départ, ça a été une fuite.
Oui, ça a été d'abord une occupation, parce que quand on est fils unique, faut trouver de l'occupation. Donc j'avais découvert les magnétocassettes, etc. Je commençais à me faire des voix, des imitations, des trucs dans tous les coins. Donc je commençais déjà à me faire un personnage qui était, une fois que je fermais la porte de ma chambre, un peu plus fou que ce que j'étais dans la vie.
Un personnage fantasmé, un peu virtuel.
Oui, qui osait faire des choses, qui osait faire des imitations. Et si on m'aurait dit autour de la table, fais une imitation, j'aurais été incapable de la faire. Et j'ai commencé à me dire, surtout avec ce drame-là, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir commencer à se moquer un petit peu de tout, y compris de ce qui n'est pas forcément drôle. Il faut trouver quelque chose de drôle à chaque fois dans la vie, dans les pires situations.
Et ça... je dois dire qu'en plus, vous étiez un enfant seul, mais d'une manière absolument hallucinante, parce que votre papa faisait les 3-8, et très souvent, vous vous réveillez dans une maison totalement déserte. Et vous aviez à peine 10 ans.
Oui, ça, là, j'ai dû me gérer un peu tôt. Quand je vois à quel point je surcouvre mes enfants qui ont 17 et 19 ans, c'est vrai que pour le coup, j'ai fait partie de moi d'enfants qui se sont bougés, qui s'habillent seuls, qui se débrouillent, qui se passent un coup de gants de toilette et qui couraient à l'école en retard. Et il fallait pas être en retard, parce que mon père aurait pas fait de mot d'excuse. Mais oui, j'ai dû me gérer assez seul, oui.
Alors, la passion de votre adolescence, bah, ça n'a pas été le foot, hein, Coé.
Non, personne ne voulait jouer avec moi.
Personne ne voulait jouer avec lui. Non. Il y a d'abord eu l'informatique, n'est-ce pas, avec un ordinateur dinosaure offert par votre papa, un Hector, je ne savais même pas que ça existait, qui, paraît-il, faisait un bruit absolument monstrueux au démarrage. Et puis, alors est venue la passion pour les consoles de mixage, des DJ, donc, avec 2 platines, un stroboscope, toujours offert par votre père. Il était absolument extraordinaire,
en fait,
votre papa.
Mon père, il était génial parce qu'il gagnait vraiment pas bien sa vie, puisque quand on entend tout ça, on pourrait avoir l'impression
il dépensait tout son argent pour vous.
Mais voilà, il n'avait pas de dépenses pour lui. C'était son petit plaisir, c'était de me faire plaisir. Il avait, surtout quand j'ai commencé à avoir 13 ans, je dis attention papa, scooter, 50 cm3. Ah, il m'a dit non, ça non, je veux pas. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir d'autre ? Donc, je me suis dit, j'avais commencé les consoles, je commençais à faire des montages. Donc, à chaque fois, il me rachetait un peu de matériel. C'était presque tout, sauf un scooter. Il voulait tellement pas que je sois sur un scooter que ça l'arrangeait parce qu'il savait que j'étais dans la chambre, il savait que je mixais, il savait que je fumais pas, il savait que je buvais pas. Quand j'avais des mix à faire dans des mariages ou dans des soirées en discothèque, j'ai mixé très tôt.
Oui, à partir de quel âge?
Ah là là, mes premiers mix en discothèque, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je pense, quelque chose comme ça. La radio, je l'ai commencé à 13 ans et demi et mes premiers mix, soirées privées, j'avais 11, 12 ans. Donc là, il m'emmenait à 11, 12 ans. Et je jouais en club, j'ai dû avoir 15, 16 ans, ce qui est improbable aujourd'hui d'avoir un disque de jockey de 15 ans.
Non, mais c'est extraordinaire. Vous avez commencé la radio à 13 ans et demi. Et c'était, je crois, tous les vendredis soirs, n'est-ce pas? Vous animiez
première soirée, c'était un vendredi, après c'était le samedi.
Ouais.
J'ai passé une semaine d'angoisse parce que j'avais répété toute la semaine mon texte d'introduction pour ma première émission qui était un vendredi à 22h. Je disais bonjour, je m'appelle Sébastien. Lalala, et je me suis retrouvé derrière le micro avec un type qui m'a laissé là. Vous savez, comme dans les films, vous savez, il y avait, à l'époque, c'était les 45 tours. Imaginez la scène. Vous avez la fin du 45 tours, il reste très très peu de temps. Et le type me tape sur l'épaule et me dit c'est à toi. Il met son manteau, il s'en va, je me retrouve à 21h59, tout seul.
Cours, le saut de l'ange s'enfile.
Tout seul avec un micro et tout le texte que j'avais répété toute la semaine, je ne me souvenais plus de rien. Il n'y avait plus rien qui sortait. Et le premier blabla a été dur et ensuite c'était parti.
Ah, donc vous êtes très vite devenu la star du lycée.
Oui, c'était incroyable. Oui, j'avais même commencé à vendre des cassettes déjà quand j'étais au collège.
Je faisais des cassettes de mix. Du business.
De mix et d'émissions que je vendais aux copains. Je faisais des duplications et je vendais ça où j'animais, où j'allais repiquer des trucs à droite à gauche, d'émissions.
Et vous fabriquiez des jingles que vous envoyez à différentes FM. Ouais. C'est ça à l'époque.
Et un jour, il y en a une qui. Et je me réveillais tous les matins à 6h et j'écoutais parce que je me disais, est-ce qu'un jour il va la passer? Donc le samedi matin et le dimanche matin, j'étais réveillé. Et un samedi matin, genre 8h du mat, j'entends le jingle que je lui avais envoyé. Et là, tout a démarré puisque voilà, je suis allé les voir, j'ai visité, puis j'ai osé. En fait, j'ai appris qu'il fallait oser à ce moment-là.
Et les mariages alors? À 15 ans, c'est ça?
Avant 11-12 ans. Ça,
mais comment pouvait-on vous faire confiance à l'enfant de 11 ans?
C'était horrible. Les mariages, je détestais ça parce que tout le monde vous regarde encore plus que, alors là, pour le coup, encore plus qu'à d'habitude. Et tout le monde, alors là, ça va parler à tous les gens qui nous écoutent, tout le monde vient emmerder le disque de jockey d'un mariage pour lui demander une musique. Moi, il y avait toujours des gens qui venaient me demander des passodobles. J'avais 12 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un passodoble. Et quand j'avais trouvé le passodoble, le gars, il venait 3-4 fois me demander un passodoble. Et quand je mettais le passodoble, le type était parti dehors fumer sa clope et il revient, il me dit alors, et mon passodoble. Ça, je devenais dingue, je ne voulais plus qu'on me parle.
Alors, votre père, absolument formidable, il était à la fois votre complice et puis votre chauffeur et vous étiez totalement dévoué. Bon, hélas, votre papa vous a quitté, vous aviez à peine 20 ans. Alors pour le coup là, vous êtes vraiment retrouvé seul au monde. Vous avez vendu la petite maison familiale et puis vous avez dit qu'il fallait prendre à bras le corps votre destin et votre ambition de radiostar, c'est ça?
Il fallait y
donc
aller.
Vous êtes monté à la capitale, comme on dit, dans le Nord.
En fait, j'y étais parce que j'étais là depuis deux ans pour mes études d'école de commerce.
Vous faisiez semblant ou vous
non,
faisiez sérieusement?
Non, j'en avais absolument rien à faire. Mais alors vraiment.
Donc vous faisiez semblant.
Et je faisais de la radio à côté. Je commençais à faire de la radio à Paris, mais voilà, j'étais stagiaire, planqué, je l'explique, à un moment donné, planqué dans les placards où il y avait le directeur du personnel qui allait me chercher dans le placard en disant non, vous avez pas de convention de stage, vous sortez. Donc j'étais caché par des gars. Enfin, c'était un truc incroyable. Et quand mon père est décédé, là, je me suis dit le petit confort de l'étudiant qui a son loyer payé et son école payée, il y a plus de petit confort.
Et oui.
Il y aura plus d'école payée. Même comment je vais payer mon loyer le mois prochain. Et là, il a fallu. Alors la vie est voilà. C'est pour ça que ce livre. Ce qui est génial avec ce livre, c'est que je reçois des témoignages tous les jours de gens qui le lisent et qui me disent que finalement, c'est un livre qui est bourré d'optimisme. Vous savez, en ce moment, vous avez beaucoup de livres, vous avez cette tendance un petit peu new life, un peu où on donne au quadra leur dire.
Il faut bien se raccrocher aux ondes positives.
Eh ben, vous voyez, ce livre n'était pas du tout fait pour ça, c'était pas du tout un manuel ni quoi que ce soit, mais beaucoup de gens le lisent dans ce sens-là parce que c'est vrai que derrière chaque drame, bizarrement, la vie m'a amené à moi, mais je crois qu'elle peut amener à beaucoup de gens, différentes solutions, différents virages, différents chemins qui ne seraient peut-être jamais arrivés sinon, ou que l'on n'aurait peut-être pas vu parce qu'on serait passé à côté, etc. Et moi, c'est vrai que voilà, quand il y a eu le drame de la disparition de mon père, où je me disais, mais c'est pas possible, cette espèce d'acharnement, quelque part, il y avait une espèce de chose qui venait essayer de compenser en m'offrant l'opportunité de. Avec finalement un patron de radio qui disait oui. Mmh. Avec finalement, voilà, cet argent que j'avais plus à la fin du mois, j'avais quelque chose pour le payer le loyer le mois d'après et les mois suivants. Donc voilà, c'est assez étonnant le succès de ce livre sur les gens qui le lisent. C'était pas vraiment prévu.
Europe 1.
Ce livre, qui peut se lire effectivement comme un manuel d'optimisme, eh bien, il vient de paraître chez Robert Laffont. Il a pour titre « T'habiller comme tout le monde, mais tu ressembles à personne ». On fait une pause courte, premier juré, et on retrouve Sébastien Coé.
Europe 1.
On l'appelle Coco Coé, son prénom Sébastien. L'animateur radio se raconte jusqu'à 16h au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Cet après-midi, grâce à Coé, qui fait paraître chez Robert Laffont, t'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. On se promène dans l'envers du décor, les coulisses de sa vie. Lui, l'homme de radio qui a inventé le concept de la radio filmée et qui aujourd'hui triomphe sur YouTube. Sébastien Coé, alors, Fun, Virgin, Skyrock, Energy, en 25 ans de radio, à part une pause de 7 ans sur Energy, vous avez multiplié les allers-retours, vraiment comme si vous étiez en quête du Graal impossible. Les audiences n'étaient pas du tout en cause, puisque les émissions cartonnaient. Alors pourquoi cette bougeotte irrépressible, comme si l'herbe était forcément plus verte dans le pré, j'ai envie de dire radiophonique, du voisin?
L'envie du défi, c'est très étonnant, mais c'est comme ça. Toutes les radios avaient une signification différente, avaient une histoire différente. J'ai jamais quitté l'une pour faire exactement la même chose dans l'autre. Et à chaque fois, je vivais des expériences nouvelles, mais avec toujours ce truc de « je veux faire, peu importe le créneau horaire dans lequel je suis, parce que je fais 15 ans de matinale,
ouais.
Je veux qu'à chaque fois, il y ait une petite brique qui vient consolider la maison et qui est la mienne. » En me disant « voilà, si je meurs aujourd'hui, au moins j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. »
Alors, ce que votre public ignore, Sébastien Coé, c'est qu'à 27 ans seulement, vous avez été promu patron d'une station.
Ouais.
Une station sur laquelle, franchement, on ne vous attendait pas du tout. Rire et chanson.
Moi non plus.
Pourquoi vous avez accepté de relever ce défi?
Je le dis dans le livre, j'ai eu une semaine de dépression absolument horrible à partir du moment où j'ai dit oui, parce que je me suis dit, je mangeais avec mon ex-femme, avec ma femme à l'époque, tous les midis, alors qu'elle ne me voyait jamais. Et là, tous les midis, je disais, tu veux pas manger avec moi? Et tous les midis, je mangeais avec elle et je me prenais les mains dans la tête, je me disais, qu'est-ce que je fous là? Parce que pour moi, voilà, sans mauvais jeu de mots, c'était la radio de Raymond DeVos, c'était tout sauf ce que je voulais.
Vous aviez 27 ans!
Ouais, et il m'a fallu 5 jours et au 5e jour, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, mais si je n'aime pas cette radio et si je faisais tout pour finalement l'aimer un petit peu. Et si moi je l'aime, bah finalement il y a peut-être plein de gens qui ne l'écoutent pas, qui viendront l'écouter. Et là, je me suis rentré à fond dans le travail avec les équipes, on a fait de la création, on a structuré ça comme une radio d'info, ça peut paraître dingue, mais avec on a fait une première conférence de presse, il n'y avait jamais eu, etc. Et boum, et la radio a décollé et a monté.
Alors justement, comme ça a marché, et bah dans la foulée, vous êtes retrouvé, on va dire par un jeu de chaise musicale dans le groupe, patron des programmes d'énergie.
Ouais.
Alors ça, c'était pas du tout prévu dans votre plan de carrière, non. Vous qui ne rêviez que de faire de l'antenne.
Bah oui, c'est-à-dire que j'étais plus à l'antenne, donc ça commençait à être long. Mais en même temps, vous savez, quand vous êtes patron de radio, ça c'est un truc que les gens peuvent difficilement comprendre. Moi, j'adore être derrière un micro, j'adore faire rire les gens. Mais vous savez, quand vous êtes patron de radio et que vous avez une équipe avec vous, vous avez 10 producteurs son, 15 réalisateurs, vous avez une vingtaine d'animateurs, et que tous ces gens, vous devez les emmener avec vous. Moi, j'avais toujours une façon de faire qui était simple. Je faisais une réunion au début d'année, je dis voilà, on est là, on va faire ça, on va perdre des gens en route parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je veux, il y a des gens qui vont pas être très bons, puis il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Mais ce que je veux, c'est que tous les jours, il y ait des gens qui viennent bosser avec le sourire en se disant on croit en ce qu'on fait. Et à chaque fois que j'étais patron de radio, c'est toujours ce que j'ai fait. Par chance, à chaque fois, les audiences ont marché derrière, mais c'est fantastique. C'est finalement, patron de radio, c'est parfois beaucoup d'emmerde, mais c'est tellement génial.
Et puis tous
génial.
Les patrons de radio ne font pas d'antenne. Bon, alors, votre période Big Boss, Sébastien Coé, elle s'est prolongée avec Europe 2, effectivement, dont vous étiez à la fois directeur des programmes tout en assurant la matinale. Et c'est là que vous allez avoir l'idée juteuse, ensuite reprise par tout le monde en radio, d'installer des caméras dans le studio pour filmer vos délires en radio. Vous dites, les jeunes de 20 ans veulent voir ce qu'ils écoutent.
Ouais.
Ça, c'est comme un mantra, en fait.
À l'époque, pas du tout. À l'époque, on avait commencé par un type qu'on surnommait Spielberg.
Par dérision?
Oui, parce qu'il filmait, c'était un Spielberg, mais il croyait qu'on le valorisait, mais il filmait très mal. Donc, et en fait, on filmait au caméscope, et il faut quand même imaginer. Et il avait un gros défaut, ce garçon, c'est que quand il riait, il était assez corpulent, et je l'embrasse, il nous écoute, quand il riait, il se secouait lui-même, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, ça faisait des effets,
et
justement.
Donc toute la caméra bougeait, mais comme l'émission était drôle, il riait tout le temps, et on avait des images, et un jour on lui a dit, écoute, fais un truc, je t'aime beaucoup, mais mets un pied de caméra, fais quelque chose. Et on a commencé à filmer, et j'avais toujours cette réflexion de gens qui me disaient, ça n'intéressera personne. Tout le monde s'en fout de la radio filmée, c'est moche.
Mais en fait, c'était plus de la télé sauvage au départ que de la radio filmée.
Vous savez, moi, j'ai toujours aimé le visuel à la radio. C'est-à-dire que même pas filmé, je trouve, on parlait tout à l'heure d'une prise de judo, j'ai revu David Douillet hier, je l'ai croisé dans la rue, on avait fait du judo habillé en kimono en direct à la radio à 8h30 du matin rue François 1er. Vous allez me dire, quel intérêt pour les gens qui écoutent en voiture? Mais l'intérêt, il est génial. Les gens se disent, mais est-ce que Coé va se faire massacrer vraiment par David Douillet? Et quand ils entendaient le mec tomber et qu'ils m'entendaient hurler ou crier, ils disaient, mais il le fait vraiment. Oui, il n'y avait pas l'image, mais il y avait cette folie de moi, j'adore le visuel en radio. Et les images derrière ont amené la
bah
suite.
Oui, en plus, les gens ont les images pour ceux qui savaient où les trouver. Alors, je reprends le fil de votre histoire, Sébastien Coué. Contre toute attente, eh ben, les délires de la matinale d'Europe 2, diffusés sur MCM, ont alerté celui que j'ai envie d'appeler le pharaon de TF1, le très respecté Étienne Moujotte, qui, voilà, veut voir absolument sur la première chaîne de France ce qu'il entend sur Europe 2, parce qu'il écoutait Europe 2. Et c'est ainsi que va naître la méthode Coué sur TF1. On peut dire que c'est l'ancêtre de Touche pas à mon poste.
Ah oui, certainement, dans les codes, oui. Il avait été bluffé par deux trucs, Étienne Moujotte. Il avait été bluffé par les émissions en public que l'on faisait, parce qu'on faisait des émissions jusqu'à 10 000 personnes le matin dans des zéniths,
mais
etc.
Oui.
Il avait été bluffé par ça. Il avait vu une vidéo de Ségolène Royal, qui était à l'opposé de ce qu'on voyait peut-être sur Europe 1 ou ailleurs, où elle était rentrée complètement dans le jeu de mon émission, où elle tirait sur ma chemise en disant, allez-y, montrez ce qu'il y a en dessous, parce qu'elle était en train de s'amuser, tout simplement. Et il avait été bluffé par ça.
Extraordinaire. Où sont les images? On les voit sur le net très facilement.
Non, elles y sont plus, mais je veux vous les ressortir. Si
ah,
vous voulez.
Bon, très bien.
Et je vous assure, et il l'avait montré à toute la direction de TF1 en disant, regardez ce que fait ce type sur Europe 2 le matin, et si on essayait ça? Et il m'a appelé un jour, il m'a dit, je veux un talk show avec vous. Et alors moi, au début, j'y suis allé très timidement, et ensuite, il m'avait rappelé, vous croyez que j'allais me faire engueuler, parce que l'émission marchait pas très bien, et il m'a dit, j'ai écouté un truc délirant, je veux voir un truc délirant, donc maintenant vous y allez.
Vous y allez à fond. Et donc, on peut dire que l'ADN de Touche pas à mon poste, eh ben, il est composé de tout ce que vous avez expérimenté il y a 15 ans sur TF1, dans la méthode Coué, et puis dans Coué retourne la télé. Bon, faut dire que, en fait, sur le mode de Jackass, né aux États-Unis, vous y êtes allé très très fort dans les défis. Vous avez fait le fakir sur des braises.
Jamais faire ça.
Vous êtes immergé dans une baignoire dont la surface était couverte d'essence.
Jamais faire ça non plus.
En y mettant le feu. Non mais attendez, vous êtes un miraculé.
Vous savez, dans le livre, je l'explique, mais c'était un magicien, parce que tout le monde croyait que j'avais pris ma respiration. Imaginez une baignoire, et le magicien me dit, t'inquiète pas, tout le monde va croire que tu prends ta respiration, on met de l'essence au-dessus, on fout le feu, tu vas voir, c'est très chaud, surtout cale-toi dans le fond, parce que le corps remonte, hein.
Ouais.
Donc cale-toi dans le fond, mais il me dit, tu vas voir, on a truqué, il y a un embout de tuba, donc tu mets ta bouche, et de l'autre côté de la baignoire, il y a un petit robinet, mais en fait, le robinet, il te permet de respirer.
Voilà.
Moi,
Hors le trucage.
Moi, je le fais, je descends en dessous, je mets le truc dans ma bouche, et là, je me rends compte qu'il n'est pas fixé, toute l'eau rentre dans ma bouche, et donc je ne peux plus respirer, et à ce moment-là, je sens la chaleur, et je me dis,
écoute, surface ferme.
Ah ben je me dis, je n'ai pas le choix, je vais retenir ma respiration, parce que je n'ai pas le choix de toute façon. Et quand je suis ressorti en mode, toute une bonne équipe est venue me voir en disant, hey, bravo, tu l'as bien fait. J'ai dit, je n'ai pas bien fait, j'ai failli mourir dans cette baignoire.
Bon, ils n'ont pas été virés à la suite
non,
de ça.
Non, mais non, parce que je crois que personne ne pouvait savoir que cet embout allait partir.
Bon, est-ce qu'aux États-Unis la production de Jackass vous regardait?
Non, parce que nous, on était bienveillants. On n'a jamais voulu se faire mal. Hein. Eux, ils y allaient quand même. Ils étaient très, très...
Ils étaient pires que vous.
Ouais, nous, on voulait faire des trucs bluffants. Le coup des braises que vous disiez tout à l'heure, un truc idiot.
Ou de la moto, parce que quand même, vous avez été victime d'un faux hypnotiseur.
Bah non, c'est un
n'est-ce
vrai.
Pas
mais en oui, fait, mais ça ne marche pas sur moi, c'est ça le problème.
Ça ne marche pas sur vous, et on vous roule dessus, et sur la moto, il y a deux personnes, carrément.
Ouais,
donc en tout, ça pèse combien?
Bah, il y avait la très belle Élodie Gossuin, donc je n'oserais jamais lui demander son poids. Il y avait le chauffeur.
Mais elle n'était pas seule.
Le poids d'une moto.
Voilà.
Et en fait, le motard n'a pas rien pris la planche qui devait passer sur moi. Il l'a prise de côté, donc je me suis pris tout le poids de la moto sur la tranche de la planche. Et il est tombé de la planche avec la roue qui est passée. Je l'ai senti dans mon entrejambe. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sentez un pneu qui vient coincer votre jean dans votre entrejambe, je suis un garçon, je peux vous dire que pendant une demi-seconde, vous vous dites, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Il a embarqué ça dans la moto. Et en fait, j'étais pas du tout hypnotisé, j'avais mal. Et lui était revenu en me disant, allez, tu n'as rien, regarde ma petite lumière, compte jusqu'à 3. Mais je dis, non, j'ai mal.
C'est Sébastien Coué qu'on écoute cet après-midi sur Europe 1. Bon, alors, la pause sera courte parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est 15h41 et vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On reprend le fil de l'histoire de Sébastien Coué en compagnie toujours d'Isabelle Morizet.
On traverse le miroir cet après-midi avec Sébastien Coué, showman, homme de radio qui a triomphé sur TF1 et aujourd'hui une star du digital et qui fait paraître chez Robert Laffont. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. Alors Sébastien, il est très frappant le décalage qui existe aujourd'hui entre les publics, bien sûr selon les tranches d'âge, parce que les plus âgés vous disent « on voit plus à la télé, bah, qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Ceux qui ont entre 25 et 50 ans, ils savent à peu près où vous trouvez. Et puis alors les moins de 25 ans, bien sûr, ils vous suivent sur YouTube et sur Énergie. Et comme les moins de 25 ans, ils ne regardent plus du tout la télé, eh bien pour eux, j'aimerais savoir, vous êtes une star du digital, alors que pour les anciens, vous êtes, je peux oser dire, un has-been de la télé, c'est ça ?
Ah non, pas, c'est pas non parce que non parce que c'est tous les jours qu'on me demande le retour de la méthode, tous les jours et à quand le retour de la méthode. Non, les gens sont... en fait, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez une partie de la population plus âgée qui se disent mais enfin vous voyez plus, mais enfin qu'est-ce que vous faites, et je leur alors, j'ai même pas envie de leur expliquer parce que c'est un conflit de génération, tout ce que je fais en digital, tout ce que je fais en radio, je leur dis mais mettez la radio tous les jours sur une autre radio et vous m'écouterez. Mais ça va aller de plus en plus comme ça, vous savez, ça va être, vous allez avoir des publics qui vont se séparer, vous allez avoir des publics qui n'ouvriront jamais un journal, comme vous aurez des publics plus âgés qui n'ouvriront jamais Internet ou qui ne feront jamais un filtre avec Snapchat. Et vous avez des, voilà, donc moi j'ai une chance plutôt incroyable, c'est d'avoir un public qui a suivi la télé il y a des années, puis leurs enfants qui suivent la radio, et puis bientôt peut-être un jour les petits enfants qui dans la rue, moi dans la rue on me vient des fois les parents qui me disent je peux avoir un autographe, le fils il dit moi je vous écoute à la radio, le père il dit bah oui mais moi c'est plus. C'est assez étonnant d'avoir ces différentes générations qui suivent, finalement.
Mais le secteur du digital est quand même hyper concurrentiel, parce que quand vous postez une vidéo sur le net, vous êtes en concurrence avec celle du monde entier.
Ah, bien sûr, mais vous savez, c'est comme le one man, c'est une école pour être humble. Non mais vraiment, c'est-à-dire que quand vous le mettez une vidéo, il faut vous dire peut-être qu'elle va cartonner, peut-être qu'elle va faire un bide. C'est comme une vanne dans un spectacle quand vous les jouez pour la première fois. Vous jouez votre spectacle, vous êtes à peu près persuadé qu'il va marcher à 90%, mais vous avez 10% où vous vous dites ça va peut-être être un bide.
Alors donc, vous nous avez dit au début de cette conversation que vous en étiez à 1 milliard 500 millions ouais. de vues sur le net. Laquelle des vidéos a le plus cartonné ?
Une parodie, je crois, une chanson qu'on avait faite qui était La fin du monde, qui a fait 10 millions de vues, je crois, qui était une chanson où je chantais pas trop mal pour une fois. Et voilà, et qui avait fait 10 millions de vues. Et ensuite, oui, c'est des 3, 4 millions de vues. Et vous avez des vidéos, des fois, qui font que 500 000 vues. C'est pas très grave non plus parce qu'elles sont bien aussi.
Sébastien Coé, comment trouvez-vous encore le temps de faire sur scène des one-man shows et de faire le DJ qui va mixer à Miami ou à Las Vegas ?
C'est la passion. Le one-man, vous savez, c'est un truc incroyable. Là, on est en tournée dans toute la France. Je sais qu'on est en Suisse à Morges au mois de juin.
On peut annoncer la grande salle magnifique.
Ah non, c'est pas signé.
C'est pas signé encore, mais à Paris en tout cas.
Ce sera à Paris. Dans un an, je fais mon anniversaire. Alors, je vais vous faire je l'ai jamais dit nulle part. Dans un an, je fais mon anniversaire sur scène à Paris dans une très belle salle. Une salle qui est faite pour faire la fête. Et je vais faire non seulement mon one man, mais je vais faire mon one man plus parce que je vais faire mon anniversaire. Donc le public qui viendra, alors on verra si on fait un soir ou deux. Je ferai deux anniversaires, ce sera la première fois de ma vie. Et on veut faire une très belle fête, évidemment, avec des guests, avec des invités.
Mais on n'a que la moitié du scoop là. On peut pas connaître la
salle.
C'est une très
belle salle, mais j'attendais d'avoir la signature complète.
On va juste dire assez folle pour votre folie à vous.
C'est ça, on va essayer ça. Et voilà, et vous me dites, le one man, c'est les faire rire les gens. J'ai la chance d'avoir un show qui est top, qui fait qu'on joue dans des salles, des fois dans 2 mois, qui sont déjà pleines. Je suis comme un gamin. Et le mix, c'est la même chose. Vous savez, quand on vous propose d'aller mixer dans des clubs en France ou à l'étranger, quand vous êtes à l'étranger, ils savent pas du tout qui est.
Non, mais c'est extraordinaire. Donc, vous avez, en parallèle de toutes vos vies, une carrière à la Martin Solveig ou David Guetta.
Ouais, Sébastien Coé. À Las Vegas, il y avait marqué Coé. J'étais allé dans un club. Il y avait le nom des DJ qui était là. Il y avait marqué Coé. From Paris.
Ah, c'est chic. Ah, maintenant, je vais vous appeler comme ça.
Et je me disais que c'était marrant parce que, évidemment, pour les Américains qui étaient là, quand j'ai commencé à mixer, on s'en foutait, Coé, personne ne savait. Et c'est la première fois que j'ai vécu ça, quand j'ai fini de mixer, à Vegas, hein, vous avez tous les gens ont applaudi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, quand je mixe dans mon pays, les gens font la fête, ils sont heureux. Mais là, les gens ont applaudi alors qu'il y avait juste marqué From Paris.
Mais alors, quand Coé From Paris mixe à Vegas, il mixe quel genre de tube ? Parce qu'il faut avoir vraiment là, on va dire, une être branché à l'international, ouais. On n'écoute pas à Vegas, on n'écoute pas à Miami, ce qu'on écoute en France.
Non, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une culture des DJ où on vient écouter ce que joue le DJ. C'est-à-dire, on sait que quand on va voir quelqu'un, il va pas jouer la même chose que l'autre. Il y a des gens qui sont très pointus, il y a des gens qu'on déteste, il y a des gens qu'on trouve que
leur
musique est très
cool. Alors, votre style à vous de DJ,
ça va peut-être pas beaucoup parler à vos auditeurs, hein, mais je suis très musique électro, moi, vous savez. Je suis très ce qui peut faire bouger 10 000 personnes ou 20 000 personnes. Je suis pas très club lounge, vous savez, où on a une limonade, où c'est très tout.
Ouais, c'est juste pour draguer, ça.
Moi, je suis beaucoup plus, ça tape un petit peu plus. Si
ça
vous
tape
voyez.
Un peu plus. Bon, et puis vous avez également mis le feu à Bercy, parce qu'on parle de Miami, de Vegas, mais Bercy aussi, tout à vous.
Ça a mixé à Bercy. Ma fille était dans la salle. Ça a été ma plus grande satisfaction. C'était pas tant de mixer à Bercy, c'était que ma fille était dans la salle avec ses copains. Elle avait demandé des passes. Je crois qu'ils étaient 6, 7 copains. Et j'ai commencé à mixer, et à la fin, je suis descendu de la scène, et j'avais un mot de ma fille avec une photo avec ses copains qui me disait waouh, papa, c'est trop cool, t'as été génial. Et vous savez, quand vous avez des ados, Souvent, ce qu'on fait est ringard. On sait que la blague des parents, les enfants, les enfants font ah mon père, il sait d'être drôle, mais il est pas drôle. Et alors, si en plus, et aller voir son père mixer, c'est la même chose. On n'a pas envie d'aller voir son père mixer. Et quand j'ai reçu ce truc-là, ça m'a fait très plaisir.
On en meurt d'envie, mais surtout on le cache.
Ouais, je suis pas sûr qu'elle en mourrait d'envie, mais là, Bercy, la scène, il y avait d'autres DJ après moi qui étaient de talent, etc. Elle était très contente, je crois. Et ça m'a fait plaisir.
Ça m'a fait très plaisir. Tout de suite, Koé, non, Seb, Coco, à tout de suite.
On y arrive.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Et on retrouve Isabelle Morizet et son invité Sébastien Coé pour la dernière partie de son entretien. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin.
Bon, il n'y a que deux célébrités au Touquet. Le président Macron et son épouse, Sébastien Coé.
Oui.
Il sourit.
Oui.
Vous avez toujours la maison au Touquet.
Bien sûr, c'est ma résidence principale, même pour être très honnête, le Touquet.
C'est vrai.
Ouais, 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 ouais. J'y suis bien. J'aime bizarrement le climat. Je dis bien bizarrement parce que c'est assez particulier. J'aime l'ambiance qu'il fait. J'aime le fait que ce soit ouvert toute l'année. J'aime le fait qu'on puisse y aller au mois de dimanche du mois de février, que ce soit ouvert. Voilà, j'aime ça.
Mais alors, je vais creuser un petit peu, Coé, parce que quand vous avez intégré le Star System, vous avez d'abord élu comme spot préféré Miami, le luxe international sous le soleil américain, voilà. Ça vous est assez vite passé. Alors, je voudrais savoir pourquoi, à l'autre bout du spectre, avec tout le charme quand même, bien évidemment, qu'on peut trouver au Touquet, vous avez choisi cette ville où le ciel est souvent brumeux.
Oui, mais où les gens sont chaleureux. Vous savez,
rime.
Non, mais je vais vous dire, parce que je crois que je suis pas très bling bling moi, fait bizarrement, voilà, j'aime profiter des choses, enfin, je pense que dans la vie on n'est que de passage et il faut profiter des choses, mais asperger le corps de danseuse de champagne sur des plages de Saint-Tropez n'a jamais été mon délire du tout.
Oui, puis ça ressemblerait un petit peu trop en fait à vos plateaux de tournage.
Oui, mais en plus c'est pas mon truc, voyez ce que je veux dire.
C'est formidable, il nous annonce maintenant que ce n'est pas son truc.
Non, mais vous savez, moi je suis un garçon, vous l'avez vu dans le livre, je suis un garçon plutôt discret, le Touquet me va très bien pour ça. Bien sûr que j'aime les belles choses, évidemment que j'adore m'allonger sur une belle plage et que j'adore un très beau restaurant ou un très... Mais voilà, moi j'aime la petite musique douce chez moi, les bougies parfumées, le côté un peu jazzy quand je suis chez moi au calme, parce que quand vous avez une vie qui bouge dans tous les sens et que vous avez la chance de faire de la scène, les réseaux sociaux où on vous lâche jamais vraiment, même si les gens sont adorables, vous faites des vidéos, vous faites de la radio, vous avez besoin de ces moments de calme et d'une tranquillité incroyable. Moi j'en ai besoin en tout cas.
Bon, votre maison n'est pas cernée par la sécurité comme celle du président, au
non,
Touquet.
J'ai pas de gilet jaune non plus devant, voilà. Mais il a une petite sécurité. Il a un camion de gendarmerie qui s'ennuie à mourir tous les jours et toutes les nuits. Un camion devant, un camion derrière, et voilà. La sécurité est faite, mais c'est très très calme, vous savez, le Touquet.
Bon, alors parlons un petit peu de vos rêves, Sébastien Coé. À 47 ans, avec l'expérience, la curiosité et la structure des sociétés que vous avez constituées, il est temps de créer ce fameux média indépendant qui regroupera, grâce au numérique, tous les métiers, c'est-à-dire la radio, la télé et le net. Vous y pensez, bien sûr.
Oui, oui, bien sûr, j'y
vous
pense.
Vous êtes en train de le faire?
J'y pense, mais vous savez, je me dis surtout que j'adore parler aux gens, j'adore les faire rire, etc. Mais dans quelques années, si en plus de ça, je peux revenir à mes premiers amours qui n'étaient pas prévus, ceux de la direction, ceux du management, ceux d'amener une équipe avec moi, j'ai envie de ça de reprendre, oui, et évidemment... ou de reconstruire un média, ou de le construire de zéro. Bien sûr que c'est quelque chose qui me tente.
Donc, racheter une radio, par exemple, pourrait vous plaire?
Oui.
La gérer totalement à votre guise?
Oui, madame. J'adore. Oui, mais bien sûr. Mais parce que, vous savez, c'est pas une envie de sale gamin qui dit « je veux ça parce que je l'ai jamais fait ». Je l'ai déjà fait. Mais à chaque fois que je l'ai fait, c'était pas pour mon compte, et les gens pour qui je l'ai fait étaient ravis, d'ailleurs, derrière. Mais je me suis dit, j'avais l'impression d'avoir fait que 10 ou 20% de ce que j'aurais pu faire. Et je me dis maintenant, peut-être que la prochaine sera la bonne et j'ai envie de faire 100% de ce que je peux donner.
Bon, donc il va créer ce fameux média indépendant. Mais alors, quel rêve improbable vous reste-t-il encore à toucher du doigt? Peut-être pas professionnel d'ailleurs.
Non, vous savez, je vais vous dire un truc. Bizarrement, avec les années, j'ai plus de rêve de... Vous savez, d'avoir, d'obtenir, de...
Mais je ne parle pas forcément de cela.
Non, mais c'est...
Ils peuvent être parfaitement dématérialisés.
Et ben, ils le sont.
Et peut-être même faire partie de l'affect.
Moi, vous savez, je suis ravi parce que j'ai deux enfants qui ont 17 et 19 ans et j'arrive en bout de course de l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Du jour où ils sont nés, j'ai eu un énorme stress. parce que moi j'ai perdu les miens très tôt, je lui dis je veux absolument être là jusqu'à ce qu'ils soient lancés dans la vie.
Ils veulent faire quoi vos enfants ?
Ils n'ont très peu d'idées, mais pas mon métier. Et vous savez, voilà, j'avais cette peur-là qui était liée aussi à la peur de dire on ne sait jamais, est-ce qu'un jour je vais leur offrir la belle éducation ? Est-ce que je vais leur offrir ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux ? J'arrive avec des enfants maintenant qui sont très cool, qui sont bien élevés, qui se droguent pas, qui fument pas, qui bossent à l'école, voilà, avec les hauts et les bas, mais finalement ils sont en bonne santé, ils sont là, et le meilleur moment c'est ce que je vis en ce moment avec eux. Je me dis que je les ai lancés, et voilà, mon premier rêve là, il commence à être atteint.
T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne.
Est-ce que je peux vous faire un compliment ? Je peux vous dire quelque chose ?
Dites-moi.
Parce que j'ai embêté toute mon équipe parce que je voulais absolument faire votre émission. Et voilà, donc je suis très content de l'avoir fait.
Et moi, je suis super ravie de vous avoir accueilli.
Il y a très peu d'émissions à la radio où il y a des gens qui prennent le temps de parler et des gens qui prennent le temps de bien les lancer et de bien les écouter. Et vous faites une émission top et je l'écoute souvent quand je suis en voiture. Et quand on a commencé la promo du livre, j'ai refusé 1000 trucs, mais j'ai saoulé toutes les équipes de Robert Laffont. J'ai dit, je veux faire cette émission-là.
Robert Laffont, c'est la maison d'édition chez qui vient de paraître. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. Et effectivement, vous ressemblez à personne. Et moi, je vous dis merde pour toutes les autres vies qui sont en train de s'écrire et qui vont vous emmener loin. Donc, on se reparle l'année prochaine.
Allez.
Je suis persuadée que vous aurez des scoops à nous révéler.
Allez.
Je vous embrasse fort.
Bisous, à bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient demain dès 15h avec un nouvel invité, l'écrivain Jean Tellet. Et si quand vous souhaitez du mal à quelqu'un, cela arrivait illico presto ? Eh bien, c'est le postulat de base de son nouveau roman, Gare à loup, aux éditions Julliard. À suivre les infos et le best-of de Carl Zéro, 2 heures de quiz et de bonne humeur. Restez avec nous. Europe 1.